Cette émission est enregistrée le 7 octobre 2020 et on a appris cette nuit le décès de Vladimir Yordanov. Alors Vladimir Yordanov, c'est un acteur assez connu dans le cinéma français, surtout connu pour les seconds rôles, connu au théâtre également puisqu'il avait été reconnu, il avait obtenu Molière du meilleur acteur en 2016. Mais pour nous, c'est aussi et surtout le papa de Kostia, notre compositeur. Toute l'équipe de Claque s'associe à Thierry et moi-même pour présenter nos condoléances à la famille et nos pensées vont vers eux.
Moi j'étais pas un fan parce que je ne connais pas non plus suffisamment sa carrière, mais j'étais très admiratif de Vladimir Yordanov, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et pour moi c'était là justement la petite blague de se dire que Kostia, que je connaissais depuis à peu près un an, était son fils et je l'ai appris ça un peu après. Et c'était rigolo de se dire qu'on avait cette collaboration là. Voilà, moi je pense à plein de choses qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens cité un air de famille dans les hommages que j'ai vus. C'est vrai qu'il était assez prononcé là-dedans. Il avait fait des collaborations avec Jaoui Bakri puisqu'il était également dans Le Goût des Autres, dans lequel il était délicieux comme tous les acteurs de ce film. Et il avait rejoué avec Clapiche, il avait fait plein de second rôles. Je pense à Une petite zone de turbulence. On l'avait vu il y a pas longtemps dans L'aventure des Marguerites. C'est pas forcément glorieux, mais ça faisait toujours plaisir de le voir. Voilà, moi c'est quelqu'un en tout cas que j'apprécie, dont j'appréciais la présence, j'appréciais le personnage, j'appréciais l'humour également. On va le voir dans le prochain OSS 117, donc Alerte Rouge en Afrique Nord de Nicolas Bedos, dans lequel il jouera Armand, après Pierre Belmar du coup. Il me tarde de voir ça aussi, et je pense qu'on versera notre petite larme à ce moment-là, quoi. Donc pensez à la famille, pensez à Kostia surtout, qui est quand même notre copain et qui doit traverser une phase assez... difficile, et du coup on va quand même lui dédier cet épisode à ce cher Vladimir.
Voilà. On lui dédie l'épisode à lui et sa famille, et on va tâcher de faire un épisode comme d'habitude, parce qu'en faisant la gueule pendant une heure, ça le fera pas revenir.
Non, c'est sûr.
Bonne écoute à vous.
Bisous,
parce qu'on fait toujours des bisous et là c'est le moment de faire des bisous. Et bienvenue dans Certains Lamas Show, l'émission qui débriefe les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Cette semaine, au sommaire de la télé-réalité iranienne avec Yelda, la nuit du pardon, une guerre familiale avec mon grand-père et moi.
Le meilleur film.
Le meilleur film avec Robert De Niro et Christopher Walken. On dira un petit mot sur Strip avec Ellie. Et oui, parce qu'on ne l'a pas oublié. Voilà, on finit la trilogie de Yaron Chani. Et on rattrape un film d'animation, Joseph, de Aurel, qui était sorti la semaine dernière. Alors, c'est pas les seules sorties de la semaine, il y a aussi des petits films, il y a un certain Relique et un certain Lupin 3, The First, dont on a parlé dans les émissions précédentes, les liens en description, voilà, qu'on vous recommande. Ça commence tout de suite. Allume la télé, Thierry.
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام
درست اون ساختمونی که میبینید منزل مردی وجود داره که مهربان
سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید
قتل عمد که نکردم آقا
حکم قصاصه
مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر مونا زیا دوستی و ارتباط کاری داشت
فقط میگی زیا آقا بود مونا برام خواهری کرد منم پشیمونم همین
بزن برم بیرون دیگه
Ressorti aujourd'hui, Le Grand Pardon avec Roger Hanin.
C'est pas une pub pour les pastilles Valda ?
Valda, Le Grand Pardon. Bienvenue dans les années 80.
C'est un truc qui se passe dans une pharmacie où c'est ça, tu files du Valium à des gens pour qu'ils te pardonnent.
C'est terrible. Bon, bref.
On va où là avec ça ?
On va pour un réenregistrement là. On va pour la refaire. Non, allez, plus sérieusement. Ouais, on dédramatise un peu parce que là, c'est une soirée, une journée pleine d'émotions.
Oui, on a besoin de rigoler et croyez-nous, c'est pas parce qu'on a ri pendant une heure et demie. Hein.
Voilà, non. Ah oui, non, un film qui fait pas rire du tout. Yalda, La Nuit du Pardon, de film iranien de Massoud Bakshi, inspiré d'une émission télé iranienne. Une merveilleuse émission télé. Une jeune femme de 22 ans est condamnée à mort pour avoir tué son mari. Enfin, ne pas avoir appelé les secours. Mais bon, bref, pour le meurtre de son mari, en gros. Hein. Et sa seule chance de salut, c'est qu'elle réussisse à obtenir le pardon de la fille de son mari. en soi c'est déjà un film, mais il se trouve qu'en Iran, ce pardon est mis en scène dans une émission de télé. Et donc c'est l'occasion de, pendant une grande soirée, on reconstitue l'affaire, on fait échanger la condamnée, la famille, il y a de la chanson, il y a une actrice qui passe... C'est bonne ambiance,
ah oui.
C'est très très bonne ambiance, et donc ce film est inspiré de ce genre d'émission.
Et surtout, il y a le vote des téléspectateurs, quoi.
Ah oui, le vote par SMS, bien sûr.
Envoyez des. Tu veux qu'elle soit pardonnée ? Envoie un par SMS.
C'est de bon goût. Oh. Et puis c'est tiré d'une émission qui a vraiment existé. Alors je sais pas si elle existe toujours, cette émission. Donc la joie, la bonne humeur, hein, avec moi.
Les
trublions, voilà, quand il faut se marrer, ils sont toujours là. Donc Thierry et Ellie, vous les avez entendus, voilà.
Bonjour.
On parle télé-réalité, il est là, hein, Ellie, ouais, n'est-ce pas ?
Il fallait. En plus, ça dure pas 12 heures, mais pas loin, donc c'est une bonne nuit qu'on passe en compagnie des personnages, quoi.
C'était ça ou l'intégrale de Séduction haute tension, il a dit je m'en fous, je veux de la télé-réalité cette semaine. Bon, heureusement, on a quand même trouvé un compromis intéressant.
Alors du coup, cette émission ?
Bah, je trouve le film plutôt intéressant, surtout en fait dans sa partie télé-réalité, on va dire. Mais je trouve qu'il y a tout un portrait de la télé, de l'hypocrisie en fait de cette émission, qui est assez bien foutu, avec comme vous l'avez dit les votes en direct des téléspectateurs, l'influence en fait très pesante de la production sur le déroulé en fait. On sent qu'ils veulent absolument tout guider, quitte à saccager les vraies pensées des personnages. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Je pense vraiment que le film n'est jamais meilleur en fait, que quand il montre l'envers du décor. Après, quand on s'intéresse au contenu, c'est plutôt intéressant, mais je pense que le film aurait gagné, par exemple, à être peut-être plus centré sur le personnage de la fille de la victime, en fait, Mona Zia, avec son vrai dilemme, justement, sur est-ce que, oui ou non, elle doit mettre en avant, enfin, utiliser son droit du talion, en fait, qui est au final un peu mis de côté pour privilégier le côté un peu pathos, dramatique autour de la femme qui aurait commis le meurtre du mari. Et de ce point de vue-là, je pense que le film se perd presque un peu avec toute la sous-intrigue liée à l'enfant qui va prendre beaucoup, beaucoup de place et délaisser, je pense, tout le côté très grinçant en fait, du film lié à est-ce qu'on va laisser ou non cette femme utiliser son droit et comment est-ce qu'elle va elle-même réfléchir aux conséquences potentielles de cet acte. C'est assez expédié au final dans les 10 dernières minutes du film. Alors que ça aurait pu être beaucoup plus prenant. Mais sinon, le montage est très bon, je trouve. Il y a toute une capacité à jongler entre justement la télé-réalité, le vrai drame intime qui se joue, qui est plutôt bien orchestré. Et la mise en scène aussi reflète ça très très bien. On est vraiment plongé avec des plans-séquences dans les coulisses, etc. pour nous faire vivre l'instant présent. Et voilà, l'enjeu quand même d'une peine de mort qui est là, qui plane sur cette affaire qui est mise en avant en mode c'est sensationnel, c'est la folie, c'est fait entrer l'accusé, mais version, tu peux vraiment mourir à la fin d'émission, quoi.
Moi, je trouve ça aussi très marquant, c'est que c'est une émission avec un beau décor, des paillettes et tout, des décors dorés, le siège velours avec des ornements, tout ça. Et ils ouvrent par un reportage, fait entrer l'accusé avec le ton, des images en négatif. Qui sont super graves, super glauques, les reconstitutions, c'est badant à souhait. Il y a le contraste pour justement pour l'émission, pour aguicher le chaland. En plus, ça se passe pendant Yalda, qui est une fête. Je crois que c'est la nuit la plus longue, c'est pour l'arrivée de l'hiver. Donc c'est une fête qui est censée être joyeuse, on veut du bonheur dans les maisons, et ils balancent ce truc-là. D'ailleurs, il y a une femme dans le... Je sais pas quel est son rôle exact, si elle est de la production ou de la chaîne, elle dit « Attendez les mecs, vous pouvez pas passer ça pendant une fête, enfin c'est pas possible. » Et ils sont « Non, à l'intérieur c'est la NASA, les mecs, ils envoient une fusée, ils font l'émission sur les rails, et il faut envoyer quoi. »
Ce qui est intéressant aussi, du coup, ce que tu disais sur ces images très graves, c'est que visiblement, en fait, l'émission de base dont s'est inspirée, qui s'appelle Lune de miel, si je dis pas de bêtises, en fait, ce qui a scandalisé notamment le réalisateur pour qu'il fasse ce film, c'est que, apparemment, de ce que j'ai lu vite fait sur internet, l'émission retransmettait en même temps les pendaisons des personnes en fait qui étaient condamnées aussi après coup. Ce qui fait qu'en fait, je pense que c'est pas anodin le fait qu'il nous montre dans le générique de cette émission plein d'images de gens pendus ou de gens pas loin de se faire pendre. C'est vraiment pour. Ça, pour le coup, c'est le côté très cynique du film qui marche très très bien. Ce côté, on essaie de pardonner, mais tout ça en fait, c'est juste pour faire du show là-dessus et c'est dégueulasse. Hein, on va pas se mentir. Hein. Faire de l'argent sur la peine de mort, c'est peut-être un truc les plus moches qu'on puisse faire, je pense. Pour tout ça, le film est quand même très intéressant, je trouve, et vaut le détour. On est loin du film de Sundance très très clinquant et très vain, même si je pense que il pourrait être un peu plus, aller un peu plus loin dans son sujet quand même.
Procureur Thierry.
C'est assez grinçant en fait, mais c'est vrai qu'au final, ce que tu disais, Ellie, moi je pense qu'on se serait peut-être centré beaucoup plus sur sur la fille de la victime si on avait été dans un film classique de procès, en se disant clairement, il y a que cette personne qui peut potentiellement décider. Ça se passe en huis clos, ça se passe en décision de justice, et ça devrait se passer comme ça. Enfin, on devrait abolir la peine de mort, mais ça c'est un autre débat. Mais dans un cadre comme ça, oui, ça devrait se passer. Vous avez le choix de porter plainte ou pas, de continuer à aller là-dedans. C'est vous la personne victime, c'est vous qui avez la décision. On est avec elle, on est avec les gens qui essaient de lui parler, de lui dire le fais pas ou fais-le, voilà. Sauf que là, on rajoute en plus la pression nationale, on rajoute en plus la pression du clinquant et du suspense. On rajoute les enjeux du producteur qui, lui, indirectement, décide un petit peu de ce qu'il a envie dans cette finalité-là. Quoi. Ils se disent, attends, qu'est-ce qui va faire apporter le plus d'audience? Est-ce qu'on la sacrifie ou pas la gamine, le gars n'en a rien à branler. Hein. Et c'est toute cette espèce d'hypocrisie folle qui rend ce sujet assez intéressant, même si moi, malheureusement, je me suis emmerdé comme un rat mort. Et j'ai trouvé ça très très chiant. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est aussi notre regard très européen où on est plus habitué à quelque chose de peut-être plus choquant quand on traite ce genre de sujet. Je me dis que pour l'Iran, ça doit être assez choc. Il faut penser comme ça aussi. Mais en fait, moi, je me suis posé plusieurs questions. Je me disais, mais qui peut produire un truc pareil, mettre en scène ce genre de truc? Surtout, qui regarde, hein, parce qu'au final, il y a 13 millions de personnes qui ont voté oui et 20 et 7 qui ont voté non, je crois, c'est un truc comme ça. Voilà.
Dans le film, ils sont 20 millions à avoir voté.
Voilà. Donc, il y a quand même 20 millions de personnes dans ce film dont on nous annonce qu'ils regardent ce genre d'émission. J'imagine que c'est pas très loin des chiffres réels.
Le producteur annonce 30 millions de téléspectateurs.
C'est encore pire. Donc, voilà. Donc, il y a quand même 30 millions de personnes qui regardent. Et le pire, c'est qu'il y en a peut-être qui regardent en se disant, ah oh là là, c'est affreux, vous rendez compte de ce qu'on regarde? Ouais, mais tu regardes quand même, tonton. Et voilà, c'est tout aussi cette espèce de délire voyeuriste de la télé-réalité où les gens regardent parce que c'est malsain et parce qu'indirectement, ils s'en foutent tellement de ce qu'ils votent, ça les fait jouir de regarder ça. Parce qu'on leur offre ça et ils sont contents de le regarder, sinon ils boycotteraient ce genre d'émission. Enfin, moi, ça me révolte plus sur ça que limite le sujet de cette personne qui doit mourir ou pas. Je l'ai pas trouvé annexe, mais je m'en fichais un petit peu face à me dire, mais qui fait ça?
Alors après, à la défense du spectateur, alors certes, il y a une part de voyeurisme, mais il y a aussi une identification au personnage, parce que c'est quand même une histoire de mariage, de second mariage. Avec la fille, d'ailleurs la fille qui doit pardonner, c'était une amie d'enfance de l'épouse qui est accusée. Il y a beaucoup de choses, donc au niveau de l'identification et au niveau de culturel local, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, effectivement, il y a quand même ce côté malsain. Oui, ce genre de choses télévisées, ça rend malade, quoi.
Évidemment, et c'est pour ça que tu peux faire des reportages derrière une fois que l'affaire est bouclée, tu vois, pour en parler. Ou tu fais, ou t'en parles aux informations. Tu vois, tu fais un fil rouge. Il y a des fils rouges sur ce genre d'enquête dans plein de pays. Je sais pas si en Iran c'est le cas, mais sûrement, qui vont te suivre des condamnations, des procès, qui vont te les montrer en direct, mais où t'as pas à voter pour savoir quelle va être l'issue du truc, quoi. C'est surtout ça, là où je me dis, en plus, on te dit clairement, hey, tu veux faire ton devoir de citoyen, alors crève ou pas. Ah, c'est quand même chaud de se dire que des personnes qui ne sont pas concernées par cette histoire, même s'ils peuvent s'identifier, ont un droit de décisionnaire dessus, même si évidemment il n'y a qu'une personne qui peut mettre le glas sur cette personne réellement, mais il y a quand même des gens qui ont le droit tout à fait de donner leur avis, de dire je suis pour, je suis contre, et d'influer. Ouais. C'est chaud.
Ça me rappelle, je crois que Robert Hossein avait fait un spectacle comme ça sur un procès, alors je ne sais plus quel procès, je ne me demandais pas, je ne sais pas, mais les spectateurs pouvaient voter pour la fin, pour le délibéré du jury, si tu veux.
Mais à travers le dispositif, en même temps, c'est un peu ce que le réalisateur nous met dans cette position, en fait, du téléspectateur, parce qu'il y a tous les plans qui filment l'émission, quand elle a commencé, sont les plans des caméras de télévision, et le montage est comme si on regardait nous-mêmes l'émission. Du coup, on est vraiment placé dans cette position du téléspectateur, et nous-mêmes, même si on n'essaye pas forcément, on se fait un avis sur ce qu'on entend, et on essaye de se dire, est-ce qu'elle devrait pardonner, est-ce qu'elle devrait pas, etc. Enfin, je pense que c'est... Il y a toute une réflexion un peu méta là-dessus qui est proposée à travers le dispositif de mise en scène. Qui, encore une fois, moi je pense que, je suis d'accord avec Thierry, je trouve que le plus passionnant dans ces deux sphères, c'est la sphère vraiment coulisses, où vraiment on analyse le processus derrière, comment est-ce qu'on va mettre en scène un tel truc qui ne devrait même pas exister, et à côté du drame qui donc, lui, pour le coup, est peut-être un peu moins prenant. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit tour de force justement dans cette espèce de paradoxe, en fait. Enfin, vraiment, on critique et en même temps on nous met dans la position de ceux que nous-mêmes on trouve abjects, quoi. Donc c'est assez intéressant là-dessus.
Oui, parce que nous aussi, au final, on n'a pas le choix de ce qui se passe, mais on choisit de regarder ça. Et du coup, oui, on est en effet, on devient nous aussi ces voyeuristes qui assistent à ce truc-là jusqu'au bout et se posent des questions sur le dénouement.
Alors moi, petit reco, perso j'y pense. Alors j'ai dû le recommander plusieurs fois dans le podcast, mais je le remets parce que voilà, après voilà. Sur les coulisses de la télé-réalité et la manipulation que peut avoir la prod, notamment sur ce qui se passe. Alors c'est sur une émission moins grave hein, quand même. C'est Unreal, la série Unreal sur le.
C'est sur Unreal Tournament, le
non.
jeu.
Non. Alors ben non, ça s'écrit pareil, mais en fait non.
Ça aurait été grave là.
Non. je veux cette émission. les coulisses de la retransmission de Unreal Tournament. Ça... Non, non, Unreal, c'est les coulisses d'une émission genre Le Bachelor. Donc évidemment, c'est Le Bachelor, l'enjeu n'est pas le même. Hein, voilà. Mais les manipulations derrière, c'est bien sale.
Ah bah Marjolaine, elle est millionnaire. Hein.
Voilà. Greg le millionnaire, tout ça, tout ça.
C'est vrai qu'il y avait Greg le millionnaire aussi. Oh là là, c'est genre merveilleux.
Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait aussi Burning Love qui passait sur Canal, qui est une parodie de Bachelor, et que Canal est en train d'en faire un remake.
Avec Jonathan Cohen là qui va sortir.
C'est ça, ouais.
Ça a l'air super intéressant. Et
alors, en fait, quand je vois l'annonce et quand je vois le roster, il y a un panda, il y a un déguisement de panda qui est le même sketch qui était dans le premier épisode ou le deuxième épisode de Burning Love. Donc voilà.
Après, on a bien fait un remake, épisode par épisode de Fleabag avec Mouche et Camille Cotin. Enfin, donc,
du coup, j'espère que ça sera quand même meilleur.
Oui, mais voilà, mais je veux dire, c'est un peu dans cette même mouvance, à mon avis, de Canal qui essaye de franciser des programmes étrangers pour les. Bah pour toucher un public.
C'est une bonne vengeance, hein, l'Amérique a fait ça depuis, ouais. depuis 50 ans.
Ah, après, c'est du sketch, donc il y a des personnalités dans le casting, ça peut marcher. À voir. Mais après, nous sommes une émission de ciné et pas une émission de série. On passe au prochain film.
Grand-père Jenny ! Tu m'as mis dans la chambre de mon petit-fils et lui, c'est le plus pauvre.
Le grenier ! Jamais de la vie !
On rend pas les choses plus difficiles qu'elles le sont.
Je hais ma vie. Je me suis fait envahir. J'exigerai de récupérer ma chambre ou ce serait la guerre. Tu veux pas qu'il attaque son grand-père ?
Déclaration de guerre.
T'as quelque chose qui m'appartient et je veux le récupérer.
Mademoiselle,
il faut que tu fasses attention.
Ce genre d'agression peut pas être ignoré.
Son grand-père
n'osera rien même. Faire.
Je vais tuer ce gamin.
Bon alors, Thierry, une de tes lubies, un des films que tu veux voir depuis très longtemps, c'est Monster Car. Oui. Un film scénarisé par un enfant de 6 ans.
Très très envie de voir Monster Car.
Bon alors, on n'est pas loin dans l'idée du projet. Là, c'est un film produit par un gamin de 11 ans.
Ça, c'est fort.
C'est très très fort. Le petit Trey Peart, ou Peart, je ne sais pas. Bon bref. Qui a lu un bouquin à l'école qu'il aimait beaucoup, un livre de Robert Kimmel Smith. Il a beaucoup aimé, il a cherché une vidéo sur YouTube, sur Netflix, tout ça. Il n'a pas vu d'adaptation, il n'a pas trouvé d'adaptation. Donc il s'est dit, mais il faut en faire une. Et il en parle à ses parents. Bon, alors ça tombe bien parce que ses parents sont producteurs.
D'accord, quelle chance.
Et donc ça nous donne cette magnifique adaptation de The War with Grandpa, Mon grand-père et moi. Magnifique comédie.
C'est beau parce que c'est pas des producteurs quelconques. Hein. Genre, ils se sont dit, bah tiens, pour ton petit film, mon gamin, on va te ramener Christopher Walken, Robert De Niro, Uma Thurman. C'est génial. J'aime beaucoup ces papas producteurs, ces parents.
C'est ça. Alors en plus, c'est un film sur la vieillesse, un peu sur la perte de moyens, parce qu'on a un Robert De Niro qui joue un papy qui perd ses moyens. Donc sa fille, pour s'occuper de lui, le fait venir à la maison. Voilà. Mais bon, par contre, comme la chambre n'est pas extensible, elle lui donne la chambre du petit. Et le petit-fils donc va devoir vivre au grenier. Et comme il n'est pas très très content, bah, il va faire la guerre à son papy pour récupérer sa chambre. Et ça va être un festival de blagues et de farces. Hein, voilà. Il y avait des comédies aussi, hein. Il y avait d'autres comédies, il y avait des comédies familiales avec Bouchou et Parents d'élèves que vous n'avez pas voulu voir, donc vous avez voulu voir la comédie américaine, mais en même temps, je vous comprends, il y a Robert De Niro, le Gérard Darmon américain, Christopher Walken, le Thierry Lhermitte américain, et Uma Thurman, la Marianne Chazelle américaine, je vous comprends.
C'est quand même génial de se dire que Robert De Niro, tu vois, dans les deux dernières années, il a joué Bernard Madoff, il a joué dans The Irishman de Scorsese, et voilà celui que l'on choisit d'avoir en salle.
Voilà. Alors, avec moi, toujours Élie et Thierry. Quand on parle comédie, Marouane Raplique, évidemment.
Bah, évidemment.
Surtout les bonnes, hein, celles qui sentent très très bon. Alors, Décrépitude de la vieillesse, on avait Relique, dont on a parlé la semaine dernière. sur le côté horrifique. Ici, on est sur le côté comédie, mais est-ce que ça fait pas quand même un peu plus peur que Relique ?
J'aime beaucoup ce que tu annonces. Bah, ça fait peur parce que ça a été produit par un enfant de 11 ans, mais déjà...
Il n'est pas tout seul, il y a 37 producteurs.
Voilà, enfin, c'est un truc de genre de... C'est un repas de famille, tu vois. On se dit, bah, tiens, on va faire un truc avec De Niro, pourquoi pas.
Non, mais les producteurs exécutifs, je veux dire, il a donné les 10 dollars de sa tirelire à gros mots, quoi. Je veux dire, cherche pas plus loin.
Non, mais il paraît qu'il a participé à l'élaboration des blagues, il a rajouté un peu.
Ouais, finalement, c'est bien, c'est que c'est l'un des premiers films à avouer qu'ils sont, ils ont un gamin de 11 ans qui fait le scénario, quoi. J'aime beaucoup, tu vois, qui font les blagues, parce qu'en général, ils le cachent, genre comme Kairon pour son dernier film, comme le blague de Toto, tu vois. On dit que c'est des vrais scénaristes, qu'on travaille le truc, mais en fait, non, c'est bien d'avouer que c'est des gamins qui le font.
Alors bon, mais pour tenir ça, il y a quand même un vrai réal, je tiens à le préciser, il y a Tim Hill, donc, qui est le réalisateur, scénariste déjà de Bob l'Éponge, donc ça c'est vachement cool, réalisateur du Bob l'Éponge là qui va arriver cette année, du Bob l'Éponge 2020, mais aussi réalisateur de Hop, Alvin et les Chipmunks et Garfield 2.
Ça suit son cours, hein.
Ouais. J'étais pas au courant pour Bob l'Éponge, ça m'énerve parce que c'est un des films que j'attends le plus de cette année, bordel. Mais bon, enfin, Tim Hill n'est pas celui qui scénarise, donc, parce que c'est le créateur de Bob l'Éponge, son merveilleux, lui, bon, bah, il dit juste action. Arrêtez, laissez-moi croire qu'il a rien à voir dans ce projet. Je veux pas descendre Bob l'Éponge avant qu'il ne sorte, s'il vous plaît.
Bref, cette guerre de... ce festival de blagues, ce festival de farces, on va dévisser les meubles, on va mettre du dentifrice dans les gâteaux... On fait exploser les sièges, on fait des... Non, quand même, il y a de la cascade, puisqu'on a quand même une partie de balle aux prisonniers sur trampoline, avec De Niro et Christopher Walken, quand même.
Mais la preuve que c'est écrit par un enfant de 11 ans, c'est que cette scène-là, elle a été écrite comme un climax. Et genre, quand on pense que ça va être fini, ça reprend. Pour le plus grand calvaire des lits.
Et ça finit sur un combo anniversaire fête de Noël.
Ça, c'est beau.
C'est beau.
Et parce qu'évidemment, dans toutes les familles américaines, les petites filles adorent avoir des chambres excessivement roses avec des licornes et plein de trucs du Père Noël parce que elles sont obsédées par Noël, évidemment.
Elle est trop mignonne, la petite fille.
J'imagine trop, genre les scénaristes, quand ils écrivaient le projet, ils sont en mode alors, faut qu'il y ait Noël, un anniversaire. Oh, un anniversaire sur le thème de Noël, génial. T'es genre en mode bien content, bien fou. On a trouvé le concept du siècle. C'est génial, extraordinaire, j'adore.
Bon alors, je reviens sur ma comparaison horrifique et je me tourne vers celui qui était caché derrière son siège pendant tout le film. Ellie.
Non mais en fait maintenant je compatis avec Thomas, enfin je comprends Thomas quand on l'emmène voir des Hong Sang-soo ou des trucs comme ça, en fait je comprends ce ressenti que tu as des fois. Tu sais, c'est cette détresse intérieure que tu... Tu sais, c'est trop fort en fait, tu t'es dépassé par ce qui se passe.
Trop d'émotion.
Mais voilà, exactement, et tu te demandes juste... Quand est-ce que ça va se terminer? Mais ça, au bout de 5 minutes. Et c'était absolument fou ce qui vient de se passer. Enfin, j'en perds mes mots. En fait, je pensais déjà dès le générique, j'ai compris qu'on allait avoir affaire à un sacré film, quoi. C'est-à-dire que les mecs ont fait ça sur Paint à 2h du matin, complètement torchés, je pense.
Les lettres qui défilent comme ça.
Ah, c'est fabuleux quand même. Le fond bleu et tout. Non, mais on aurait dit un mauvais dessin animé déjà. Et en fait, c'est un épisode de sitcom nul qui est beaucoup trop long, en fait. Mais ceux qui manquent juste les rires préenregistrés, mais bon, on les avait dans la salle parce qu'il y avait une mamie qui trouvait drôle toutes les blagues à peu près. Enfin, moi je. Ouais, tout le public cible était conquis visiblement. Enfin, moi j'étais plus public cible, j'étais mort, tu vois. Je dépassais leur stade, tu vois, genre, même sans être vieux. Mais c'est affligeant, enfin, je sais pas, enfin, je. Il n'y a rien qui va, enfin, c'est des évidences, il n'y a même pas besoin de le dire en soi, c'est que c'est. Enfin, ça crie sa nullité à chaque seconde. Non, mais c'est vrai, c'est juste déprimant. On voit même, enfin, il y a une réplique à la fin où Tom et moi on s'est regardé, on a explosé de rire. De Niro n'y croit même plus. À la fin, je sais même plus ce que c'est la réplique, mais c'est nul. C'est après tout l'espèce de climax, enfin le 8e climax pendant la fête d'anniversaire Noël. Je crois qu'il y a De Niro qui se lève, qui dit une phrase, mais genre un peu en mode punchline. Mais on dirait juste un automate qui a plus de batterie, quoi. C'est.
Et la morale, c'est que la guerre, c'est pas bien.
Oui, et voilà, en plus, le film se permet de sortir une réflexion politique à partir de ce truc. Non, mais en mode, c'est limite. Non, mais on va comparer cette guerre entre un grand-père et son petit-fils à ce qui s'est passé avec le 11 septembre et les conséquences de la guerre en Irak, limite. Enfin, c'est presque ça, quoi. C'est regarder l'escalade de la violence qu'on a pu provoquer avec les États-Unis. Parce que ta gueule. Enfin, c'est non, c'est terrible. Vraiment, je comprends même pas. Enfin. Il y a un côté un peu drôle, il y a des scènes qui marchent un peu, enfin, on a un peu de l'affection pour ces acteurs, Christopher Walken, enfin, moi je l'adore, et c'est peut-être celui qui m'a fait à la fois le plus pitié et un peu le plus rire, quoi. C'est qu'il est complètement en roue libre, mais il y a des moments où ça donne un truc très, très jouissif, genre la scène où ils font les Kaira pour emmerder un des buddies du collège. Je pense que Christopher Walken est parfait. Vraiment, il a sa capuche de loubar, il a son petit le collier en or avec le symbole dollar limite là, ou New York, je sais pas quoi. Et il fait le thug là comme ça, il fait oh tu crois que ça va se passer comme ça et tout, avec sa grosse voix. C'est drôle. Mais tout ça pour ça, quoi. Enfin, ça dure je sais pas comment. Il dure combien de temps le film?
1h38.
Ah, mais voilà, enfin, j'ai vu Out One qui dure 12h30. Je peux vous jurer que j'ai l'impression d'avoir vu 4 fois Out One là. Hein, et c'est un cauchemar ce qui vient de se passer. Enfin voilà, c'est peut-être la pire séance de ma vie. Non. Ah, si,
Viens plus souvent avec nous pour voir les comédies françaises, mon gars.
Non, mais non. Non, parce que ça, étant donné qu'on savait pertinemment que ça allait être pas bon, voilà. On peut pas non plus se permettre de dire que c'était une des pires séances. C'est pas comme si t'avais des attentes énormes. Mais c'est vrai que ça ne finit jamais, ce truc. Il y a constamment des blagues et des blagues et des blagues. Et à chaque fois que tu te dis c'est bon, là, c'est la fin du film, non, ça repart. Moi, j'y étais allé en me disant. Ça va être cool quand même parce que j'aime bien Bob De Niro quand il s'éclate et parce que tout le monde est là en mode pourquoi est-ce qu'il fait ça, c'est honteux, c'est Robert De Niro. Non, on s'en branle en fait. Il fait strictement ce qu'il veut, le mec il a rien à prouver. S'il veut aller s'éclater en faisant ça, mais qu'il le fasse quoi. Je veux dire, il s'éclate bien dans Mon beau-père et moi et toutes ces conneries, et même dans Dirty Papi il s'éclate. Et du coup, je m'étais dit au moins ça va être ça. Et en fait, pas tant que ça. Il y a quelques scènes où, oui, quand il se déguise, quand il fait deux, trois blagues, tu sens que le mec. Se marre à faire ce qu'il fait et se dit voilà au moins je passe un bon moment, mais c'est vrai que la plupart du temps tu sens que les acteurs âgés qui sont là surtout parce qu'ils ont besoin de thunes, ils subissent le film quoi, et du coup c'est triste. À la limite il y a Cheech Marin, parce qu'on le cite jamais assez, Cheech Marin, hein, on l'aime bien, et lui il s'amuse, il fait le vieux beau là qui essaie de dragouiller, bon voilà. Il y a la scène de l'enterrement qui est quand même assez pitoyable. Comment ce portable est rentré dans ce pantalon, je ne sais pas.
Voilà.
Question quoi à ce niveau-là. Enfin, on arrête de se poser des questions. On subit quoi. C'est. Non mais en fait, je suis d'accord. Oui, quand je dis pire sens, j'exagère un peu, mais c'est que vraiment j'avais ce sentiment que ça ne se terminerait jamais. Alors je me suis même mis à genoux un moment pendant le film pour prier que la séance s'interrompe ou qu'il y a un miracle et que le générique pop de nulle part. Parce que vraiment, je crois que, enfin, on dirait vraiment une mauvaise blague.
À ce moment-là, ça faisait 11 minutes que le film était commencé, il réalisait plus, Ellie. Hein.
Non mais je crois que c'était après l'enterrement. Je pense. Là, je me suis. Enfin, à un moment, on se dit tous, mais là en fait, c'est le climax. Là, en fait, ils vont pas aller plus loin. Là, en fait, mais. Et si, ils trouvent toujours une nouvelle connerie à faire. On sent vraiment que c'est presque un torture porn. C'est assez incroyable de concevoir un film pareil, je trouve.
Non, mais c'est un archétype de film à sketch, sauf que les sketchs sont éculés comme pas possible. Ce genre de truc, tu peux le voir dans les Denis Malamalis. C'est même un côté, tu sais, Maman, j'ai raté l'avion. Avec l'ensemble de petites blagues, supposées faire tomber, supposées, voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va péter, où est la blague, et tout ça. Sauf que ce film-là, on l'a déjà vu des milliers de fois. C'est destiné aux petits qui vont trouver ça original parce qu'ils n'en ont pas vu d'autres. Et c'est vrai que, c'est vrai que oui, il y a du mal à se dire quel est le public cible de ça. En tout cas, pas un public qui va consciemment au cinéma avec avec un certain âge, quoi.
Et puis on s'en rend compte avec aussi l'utilisation de la musique. C'est genre très très appuyé. Enfin,
ça la coupe tout le temps.
Ouais, ça coupe tout le temps. Et puis c'est même souvent trop fort. Et c'est toujours au violon ou à la guitare. T'as l'impression qu'en fait il y a pas de compositeur et qu'ils ont pris que des musiques libres de droit. C'est très très générique, c'est très. Et puis voilà, mais ouais, sinon, ouais, les acteurs sont en roue libre, les sketchs sont éculés, et en fait, c'est vraiment que des stéréotypes sur des stéréotypes, c'est mal rythmé, et tu sens qu'en fait, ils s'en battaient les reins, ils disaient, tiens, on a qui on veut, ça va forcément plaire à un public, parce que c'est très américain, même dans les blagues par moment, entre Walmart et Kmart, enfin, nous, on n'a pas ça, et c'est cette idée d'humour un peu juste pour eux. Tu sens qu'en fait, ça aurait été un film à sortir en. Direct DVD ou un truc comme. Ouais, et je sais pas pourquoi, il y a eu un changement parce qu'en vrai, c'est comme les vieux. Genre les suites de Disney où en fait, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu comprends pourquoi c'est en direct ou DVD parce qu'en fait, c'est pas très bien, c'est fait à l'arrache et là, c'est à peu près pareil.
En fait, je pense que ça sort en salle, peut-être, hein, c'est une théorie, mais parce qu'il y a pas beaucoup de films américains à sortir en ce moment et que là, ils en ont vu avec De Niro ou Walken, ils se sont dit, on a peut-être un créneau à tenter en le sortant en salle. Bon. Malheureusement, le créneau est un peu foiré, mais non, mais comme je disais, la musique, c'est vrai que c'est assez terrible l'utilisation, et ça fait vraiment, mais c'est insipide à mort, et en fait, c'est gonflant, en fait, ça rend le film mais tellement lassant, parce qu'il y a de la musique, je pense, 99% du film, à peu près, je crois qu'il y a pas eu, il y a peut-être deux scènes sans musique, et c'est toujours les mêmes notes, et c'est toujours pour te dire, soit, oh regardez, c'est trop mignon, la petite, elle va voir son papy, et son papy lui fait un petit speech sur comment c'est beau d'être un papy, ou après c'est pam 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 pum pam pum pam pum, parce qu'il y a un petit gag de merde avec le gamin, et tu te dis, mais arrêtez le massacre quoi, enfin. Non, mais il y a ça, et après, oui, il y a les blagues américaines, mais quand je dis que ça me faisait penser à une sitcom, c'est qu'il y a vraiment mais tous les plans archétypaux de la sitcom. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change d'endroit, il va y avoir un grand plan large, lointain, pour montrer où on est, puis on va rentrer dedans, puis on va voir la petite situation, la musique va se lancer pour faire le gag. Vraiment, il manque juste le rire à la fin, qu'on est censé avoir. Mais non, puis il y a des intérêts amoureux, enfin il y a un intérêt amoureux qui sort de nulle part, il y a la blague sur la bite de De Niro qui revient deux fois, putain, cette blague.
Alors comment dans Dirty Papi, on la voyait en gros plan, quoi, je veux dire, voilà, quand t'es au premier rang de cette salle, voilà, et tu sais, tu connais De Niro, tu sais que c'est la sienne, là, même pas.
Là, foutez 1900 au cinéma à ce moment-là, si vous voulez voir la bite de De Niro, quoi, en plus elle est en activité, enfin je sais pas, là c'est... Là c'est triste, il y a juste un pot de fleurs qui la cache, et il y a Rob Riggs qui fait Rob Riggle qui fait ça, mais qui hurle pendant 5 minutes. Enfin, ils font un combat de hurlements. Ah,
le chant contre chant avec De Niro qui a sa truc dans sa mousse à raser qui a durci là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà. Et c'est vrai que c'est un chant contre chant de deux mecs qui gueulent, quoi. Avec De Niro qui peut pas gueuler, donc il fait. Là, je me dis qu'il était impliqué quand même, hein, parce que putain, il faut qu'il sorte du coffre. Hein. Mais oh là là.
Mais voilà, même enfin, ce qu'ils ont fait de Rob Riggle qui de base est un. Il fait beaucoup de choses pas très bien, mais à chaque fois il détonne de ce qui est pas très bien. Il a toujours été drôle et tout. Et après, il a fait des trucs très bien, donc les 22 Jump Street. Et là, encore une fois, là il détonne pas. C'est la première fois que je vois ne pas détonner et être différent des autres acteurs. C'est vraiment je crois qu'il est mort. Bon, c'est un acteur tertiaire, hein, mais oui,
celui-là, donc c'est pas grave non plus. Enfin, on pouvait pas en attendre grand chose quand on a vu le rôle qu'il avait. Hein.
Mais c'est de base un acteur tertiaire, tu vois. C'est de base un mec qu'on voit trois fois dans le film. Mais voilà, c'est pas. C'est...
Conclusion, justice pour Rob Riggle.
Oui, juste. Mais,
en plus, le pauvre gars, il a un perso, on fait semblant de le développer à un moment.
Oui, c'est vrai.
Et ça conclut rien du tout, son arc, le pauvre. Il est relégué au fond scénaristiquement, mais le pauvre.
Il valait mieux en faire un comic relief, quoi, dans ce cadre-là, c'est clair que.
C'est que des stéréotypes, toi. T'as la fille qui veut sortir avec son copain, et puis à chaque fois, elle se fait emmerder par sa mère qui fait. Comment ça s'appelle son copain?
Russell.
Et en plus, elle joue très très mal.
Merci, Uma Thurman.
Ah ouais, mais c'est terrible. Quand tu dis Uma Thurman, pourquoi tu fais ça? Mais ouais, non, c'est terrible. Mais c'est ça, c'est que de l'archétype, c'est que des gros stéréotypes, c'est très mal écrit, c'est très. Et en fait, t'es là parce qu'en fait, tu veux voir De Niro, Walken dans des situations que tu ne reverras jamais. C'est ça en fait.
Qu'on aurait préféré pas voir non plus.
C'est de la curiosité morbide, quoi, ou malsaine, je sais pas.
C'est ça, c'est... mais curiosité morbide.
On a même pas pour notre argent, quoi, en plus. C'est ça le problème. Enfin. C'est ça le grand drame au final. C'est pour ça qu'on est un peu emmerdé, c'est qu'on voulait juste voir des papis qu'on aime faire les cons. Et au final, bah, on voit juste des papis qu'on aime rien faire. Enfin, vraiment, ils font pas grand même. Parce que même les pièges de De Niro, au final, c'est des pièges où il est pas vraiment impliqué, quoi. C'est des trucs, des stratagèmes un peu chiants et compliqués, bon, qui donnent des fois des gags un peu drôles, entre 8000 guillemets. Hein. Mais voilà, c'est déprimant.
C'est généreux en blagues, après est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, ça c'est encore autre chose, mais...
Ouais. Ouais, voilà, c'est exactement ça, c'est qu'il y a beaucoup de blagues, mais pas beaucoup qui marchent pas. C'est vrai. Bon, on crache notre Valda, là, c'est pour le coup.
Bon, si vous aimez la comédie française, restez pour les brefs, parce que les en bref, on écoule le stock.
C'est-à-dire que les deux comédies françaises dont tu as parlé sont sûrement mieux que ça, c'est honteux, quoi.
Alors, Bouchou, peut-être pas... Bouchou est sur le même niveau. Voilà, je tease, on va en parler. La vieillesse est un naufrage, comme tease le général. Ce film ne dément pas.
Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Régalez-vous.
Il y avait bien quelques gestes.
Tenez, c'est pour vous.
Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi?
Sí, la meva promesa.
Allez, bougez-vous les fesses!
No passa gan!
Allez, petit rattrapage, film d'animation, non pas Lupin, on en a déjà parlé à Deauville, c'est très bien, on vous conseille d'y aller, avec Relic aussi, c'est très bien, allez-y. Non, là c'est Joseph, film sélectionné à Cannes 2020, par le dessinateur Aurel, c'est son premier long métrage. Film qui retranscrit le passage de l'artiste Joseph Bartoli dans les camps de concentration français. En 1939. Et ouais, surprenant, puisque après à la fin de la guerre d'Espagne, Franco prend Barcelone, les républicains s'enfuient et affluent à la frontière française. Et les autorités françaises, face à cette affluence d'Espagnols, les regroupent dans des camps de concentration. Et c'est pas joli joli, pour rester poli et familial. Un film d'animation très BD animé, et avec une armée de voix, dans le rôle de Joseph, Sergi Lopez, et à ses côtés, Gérard Hernandez, Bruno Solo, David Marsay, François Morel, Valérie Lemercier, Thomas VDB, Sophia Aram, et bien d'autres. Sacré casting. Avec moi, j'ai une bande de personnages de BD, dans leur Thierry et Ellie toujours, et Éléonore qui nous rejoint. Ça va Éléonore?
Très bien, et toi?
Comment tu as trouvé ce film, Joseph? Ouais, direct. Okay, à froid, comme ça, paf. Sauf si tu veux pas commencer, je pense à quelqu'un d'autre, mais...
J'ai trouvé le film très bien. Déjà, il est assez court et c'est plaisant de voir un film court au cinéma. Mais il est court, mais assez dense et il a un propos assez complet et bien retranscrit. Donc, c'est camp de concentration, je connaissais assez mal cette partie de l'histoire de France, on va pas se mentir, donc c'était bien d'avoir un rappel à l'écran. Et plus que donc toute l'atrocité, bon, qui est très bien retranscrit, c'est très bien dessiné, il y a toute cette histoire un petit peu de transmission et de passage qui est très intéressante, parce qu'en fait l'histoire est racontée, c'est un grand-père, donc... on va peut-être pas forcément dire qui est ce personnage qui raconte l'histoire à son petit-fils qui aime dessiner, donc petit-fils adolescent, et donc il y a toute cette histoire du rapport au dessin qui peut être transmis parce que du coup tangible et existant, qui est très touchant, et on sent que c'est un petit peu ce qu'a voulu faire Aurel, qui lui-même est dessinateur, donc de parler d'un autre dessinateur, enfin c'est cette histoire de transmission qui m'a beaucoup plu.
Thierry?
Ouais, je rejoins beaucoup Éléonore là-dessus. Ce qui est très beau, en fait, c'est l'irruption des dessins de Joseph à l'écran et qui vont du coup parsemer le récit, en fait. Et du coup, c'est fou parce que ces dessins racontent eux-mêmes l'histoire, en fait, sans forcément qu'on ait besoin de mettre énormément de mots dessus. Alors, il y a quand même une belle écriture, il y a quand même des belles choses, mais c'est vrai que c'est fou parce que tu peux tout à fait réussir à reconstruire tout un puzzle grâce à ça. Et donc du coup il y a tout, les dessins d'Aurel qui essayent de s'approcher un petit peu du style de Joseph tout en gardant sa patte, puisque Aurel a quand même une patte assez particulière. C'est très fusain, très aquarelle aussi, il y a beaucoup de choses, en fait il y a beaucoup, je trouve, de styles de dessin, et ça passe très bien avec l'animation, alors qu'on sent justement qu'il a aussi voulu faire des dessins tabloïdes, donc très qui se figent, en fait, qui essaient de créer des images très figées sans forcément qu'elles s'animent réellement. Et je trouve qu'on est toujours dans cet entre-deux qui est plutôt beau, donc en tout cas visuellement c'est très sympa à regarder. Après, au niveau de l'histoire, c'est très bien aussi, il y a pas de... Voilà, on se rappelle aussi que en 39, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y avait pas que les gens qu'on imagine qui étaient des bonnes grosses enflures. Nous aussi, voilà, on s'est pas très bien comportés, mais après c'est normal, c'est le contexte de guerre. Mais c'est vrai que on oublie souvent, en fait, qu'il y a eu les camps de concentration pour les Espagnols après cette guerre-là, et que ça se passait chez nous, quoi. Et c'est vrai que voilà, justement, c'est aussi bien de rappeler ça plutôt que de nous rappeler toujours la même chose à cette période de l'histoire en occultant un petit peu le reste et les petites exactions que nos gouvernements aussi ont fait, quoi.
Là, du coup, on voit plus les petits chefs.
Bien sûr.
Qui, avec des racistes, très racistes et très méchants.
Oui, mais c'est juste bien de rappeler le contexte, de rappeler que ça a existé, et puis ça peut forcer les gens à éventuellement s'enseigner un peu.
Ellie ?
Que dire après ça ? Non, mais c'est vrai, l'animation est très très belle. J'aime beaucoup ce style-là qui, comme disait Thierry, est assez varié. Et les dessins de Joseph sont juste magnifiques. Et plus on les voit, moi je trouvais ça assez fascinant, et ça me donne envie de découvrir plus son œuvre, notamment vers la fin on découvre aussi d'autres œuvres différentes qu'il a pu réaliser, et je trouve ça vraiment très très joli et très intéressant. Et du coup ça se mêle très bien à l'animation qui du coup à la fois se calque donc sur son style, mais en même temps s'en détache un petit peu pour créer du mouvement et retranscrire cette époque et ce qui s'est passé dans les camps. Comme mes comparses l'ont dit, l'histoire, c'est un sujet qui est quand même très fort et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir traiter, en effet, les exactions commises par les Français pendant la Seconde Guerre mondiale avec des étrangers.
Là, c'est même avant.
Oui, même avant, et même, oui, genre à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans cette période-là, quoi, pour une fois, on parle de ce que nous, on a fait de mal, ce qui n'est pas fréquent. Et c'est assez intéressant. Je trouve ça un peu lourd. Un peu. On sent qu'il met le paquet pour montrer qu'on a été très méchant. Et du coup, moi, c'est un truc qui, de base, ça me sort rapidement dans ce genre d'histoire-là. Donc j'ai eu un petit peu plus de mal sur la partie construction, même si c'était intéressant quand même à découvrir. Et il y avait des visuels très forts pour évoquer les atrocités commises. Mais par contre, je trouve que plus le film avance et plus il y a vraiment une sorte de une poésie qui monte avec bah, l'histoire de la transmission qui prend de plus en plus de... décidément. avec l'histoire de transmission de savoir, de culture, de passion qui... bah, qui gagne en intérêt, en présence. Je trouve qu'il y a vraiment la transition entre les deux périodes, comment dire, est très, très belle, très subtile. Et tout le rapport au personnage de Joseph devient très touchant, en fait.
Oui, parce qu'en fait, on est sur le lit d'un grand-père qui est en train de raconter à son petit-fils ce qui s'est passé. Donc du coup, le grand-père a une mémoire défaillante et il mélange un peu les époques de Joseph, donc il mélange cette période sombre qui est retranscrite avec des couleurs d'ailleurs très ternes dans les gris et autres, donc qui sont la période du camp de concentration et la période mexicaine, donc une période colorée avec Frida Kahlo aussi au passage, parce que bon voilà, Joseph Bartoli a été la mort de Frida Kahlo, voilà.
Oh le coquin.
Et donc là c'est plus coloré, donc les deux parties se mélangent de temps en temps, on sait pas trop où ça va, mais ça permet de rattacher un peu des wagons, de voir que finalement ben, c'est pas juste. Enfin, j'ai en tête, alors c'est pas très sympa pour Joseph, mais je pensais à un truc que tu disais Thierry sur Résistance dont on parlait, on nous parlait de le mime Marceau résistant. Alors que c'était juste un résistant, et en fait, on le voit juste faire un coup de mime à la fin, mais il n'y a pas de lien entre ce qui s'est passé et ça. Alors que là, ben, on te parle d'un artiste, on te dit qu'effectivement, il était important, il était artiste avant, il est resté artiste pendant la guerre. Ses œuvres, une partie de son œuvre témoigne de cette période, et elles sont criantes d'horreur. D'ailleurs, en fait, tout ce que je trouvais lourd dans la narration du film, avec des méchants très méchants, et très raciste, qui était assez lourd, quoi. Surtout quand c'est François Morel qui fait le raciste, donc c'est très appuyé, disons, et sans trop de finesse, mais en même temps les persos sont pas fins, donc démerde-toi avec ça. Mais alors que les dessins sont criants d'horreur, et m'ont retourné, et j'ai pas envie de parler de ces méchants très méchants, parce que justement les dessins sont tellement horribles que finalement j'ai pas envie d'en rajouter là-dessus, ça parle tout seul.
Oui, exactement, et c'est intéressant parce qu'au final c'est un film qui montre l'art comme échappatoire un peu à l'horreur de la guerre tout en la représentant, et ça qui est intéressant, il y a vraiment toute cette espèce d'ambivalence qui traverse le personnage de Joseph. Il y a notamment une scène assez forte, un moment où il y a un acte horrible qui se passe juste à côté de lui, et son premier réflexe c'est pas d'intervenir, c'est de retranscrire ce qui se passe par le dessin, en fait. Et je trouve que cette scène est assez éloquente sur qui il est et sur son rôle, en fait. C'est vraiment, du coup, d'un côté c'est pas héroïque son comportement parce qu'il a un peu l'âge dans cette situation là, mais d'un autre côté il va devenir un témoin de l'instant, pour le futur, de ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est ce que les dessins arrivent à véhiculer tout le long du film, à travers le montage qui est très très fort aussi. Je trouve il y a des très très beaux raccords entre certains dessins, on a vraiment l'idée de... C'est comme si on lisait une BD, en fait, avec en plus les mouvements des personnages qui ne sont pas vraiment fluides, mais qui sont les personnages qui se téléportent, on va dire, d'endroit à endroit. C'est comme si on avait vraiment des cases qui se séparaient, qu'on les voyait évoluer au fil du temps. Et du coup, je trouve que ça contribue à donner une fluidité au récit qui nous entraîne dans ce mouvement d'horreur, puis progressivement d'onirisme et de poésie, quand on commence à sortir un peu de ce cadre très, très oppressant du camp de concentration, en fait.
C'est ça, oui. Et puis ce style qui est très... Moi, je pense à de la BD animée, parce qu'en fait, pas tout le temps, parce que l'animation va évoluer suivant les époques de narration, mais c'est souvent un dessin qui bouge un petit peu, puis on va passer à la case suivante, hein, et ainsi de suite. Qui évoque ça et qui d'ailleurs est un hommage d'ailleurs au dessin de l'auteur aussi également, et au passé de dessinateur du réel.
Donc finalement, oui. Pour une fois que c'est un film de Cannes 2020 à aller voir, faut y aller. Non, je rigole, en plus il y a vraiment des bons films de la sélection, mais celui-là, pour le coup, est un vrai bon film sélectionné à Cannes 2020. Ce serait un peu con de passer à côté, même s'il n'est pas énormément distribué, enfin c'est pas le film le plus mis en avant, mais je pense qu'il vaut le détour, ne serait-ce que à la fois pour son sujet qui... peu traité, et par son originalité formelle quand même.
Oui, l'originalité déjà rien que du sujet. Et
l'originalité qui vaut doublement le détour, du coup.
Et je profite que Ellie soit là. Ellie est là. Pour parler d'un film qu'on a vu, alors séparément, ça a été compliqué un peu. Striped, pour faire plaisir à Thierry. Stripped.
On dirait un film avec Liam Neeson quand tu le dis comme ça, c'est incroyable.
C'est le nouveau Raoul Mekolesera, quoi.
Stripped de Yaron Chani, la suite entre guillemets, enfin la troisième partie d'un triptyque composé avec Chained et Beloved qui était sorti cet été, dont on vous avait déjà parlé dans cette émission. Cette fois-ci, on ne parle plus de Rachi et Abigail. Voilà, désolé Thierry, je suis navré. On va se concentrer sur les personnages d'Alice et Ziv qui sont voisins. Et voisin aussi des autres personnages des autres films. Ça se passe en même temps, mais en même temps c'est un parallèle. C'est pas exactement la même histoire, mais ça synthétise un peu. J'ai pas envie de trop en dire parce que ça se révèle au fur et à mesure et il y a le plaisir de la découverte. Donc, Ellie, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ?
Bah déjà, moi je pense que c'est celui que j'ai, enfin c'est même sûr, c'est celui que j'ai le plus aimé des trois en fait au final, parce que il se tient complètement en un seul film. Même si on n'a pas vu les deux autres, il y a juste des parallèles qui sont faits à 2-3 moments en fait, avec des personnages qu'on voit ou des scènes qui, si on a vu les deux autres, donnent encore plus un côté un peu confère à l'ambiance, on va dire, d'un côté un peu malsain. Mais comme tu dis, c'est un film qui prend son temps et qui peu à peu gagne en intensité et en puissance. C'est très insidieux en fait, c'est très très dur, mais sans qu'on s'en rende compte. Et c'est très intéressant cette espèce de double parcours en fait, si on peut le dire. En gros, on va donc suivre Alice qui semble avoir des problèmes, qui fait des grosses crises d'angoisse, de panique, et qui du coup essaie de surmonter ça alors qu'elle est romancière, elle a beaucoup d'obligations. Et donc on va suivre son parcours à elle pour reprendre un peu le contrôle de sa vie. Et en parallèle, on a Ziv, qui est donc un gamin musicien, qui doit faire son service militaire, mais qui a envie de le faire en étant musicien d'exception. Et voilà, on va suivre lui qui essaie d'aller au service militaire tout en conservant la musique qui est sa passion et ce qu'il a envie de faire plus tard. Et en gros, c'est juste le destin croisé de ces deux personnes qui, de prime abord, n'ont rien à voir. Et en fait, tout le film va s'amuser à essayer de les relier et nous montrer un nouveau versant de la société israélienne et une nouvelle étude des rapports hommes-femmes, comme depuis le début de la trilogie, en fait. Sauf que voilà, là, on est vraiment sur un canevas très différent. Et je trouve que la force du film, c'est vraiment cette espèce de déconnexion initiale entre les deux histoires et voilà, ce montage alterné qui est très, très bien construit et qui gagne, mais qui devient... tellement glauque à force, et que c'est très prenant et très marquant en fait, je trouve, des trois films, même si Chained avait quand même une conclusion quand même qui était pesante, on s'en souvient bien. Celui-là est encore pire parce que c'est vraiment comme si on nous insérait du poison et que ça, l'effet grandissait petit à petit jusqu'à la conclusion, quoi. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, et ça ne fait que confirmer quand même que Yaron Chani, même si on était tous d'accord que c'était un peu perdu sur Beloved dans sa trilogie, il a quand même du potentiel, avec son style très réaliste, très même naturaliste dans la représentation de la société. C'est très efficace et il arrive à révéler des choses qu'on n'imagine même pas et qui font mal en fait et qui ont besoin de ressortir. Et c'est très fort.
C'est ça. En plus, c'est un film, il a tourné les trois films en même temps en fait. Il voulait faire un film, puis il avait tellement de matériaux qu'il a décidé de couper en trois. Et moi, j'avais très peur. J'avais très très peur. Qu'on ait des chutes en fait, ou qu'on ait au début, j'ai vu ces deux personnages, je savais pas où ça allait. Je me suis dit, bon, allez, il nous continue les deux autres films et il sait pas où il va et on sait pas où on va non plus. Et en fait, c'est vrai que dans le dernier quart, ça se révèle, son intention se révèle, et c'est saisissant, c'est glaçant. Et ça m'a complètement retourné. Je te rejoins aussi. C'est peut-être c'est mon préféré des trois parce que c'est celui qui m'a le plus terrifié. Vraiment. Et en même temps, c'est pas. Enfin, il y a une note d'espoir sur la fin. C'est léger, hein, mais il y en a quand même une. Et je trouve que c'est quand même une bonne synthèse des deux, parce que Chained, c'était une descente aux enfers. Beloved, c'était une renaissance. Là, on a un peu les deux qui se mêlent. Je ne dis pas qui descend aux enfers et qui renaît, hein. Voilà. Mais les deux destins sont croisés. On a les mêmes histoires. Le truc qui faisait flipper. On a la télé qui tourne en boucle, qui est la même, tu vois. Il y a une histoire de violeur en série qui tourne dans le quartier, ça passe à la télé dans Chained, et ben là ça passe aussi à la télé en boucle, on a cette angoisse, cette ambiance pesante dans le film, il se ressent. S'il n'y en a qu'un des trois à voir, je conseillerais celui-là.
Oui, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est celui qui synthétise tout et qui peut se voir indépendamment des deux autres en plus, qui est une grande force quand même. Et ce qui est très intéressant, et encore plus que Chained, qui déjà le montrait un peu, c'est vraiment toute la réflexion sur comment les médias, la société en elle-même, est un cercle vicieux en fait. Et que l'écriture des personnages dans celui-là est beaucoup plus fine, je trouve, que dans Chained. Et c'est ce qui en fait peut-être
encore plus sa force, on va dire. Il joue moins sur le... Parce que là où Chain, on avait quand même Rashi, qui était un personnage qui était quand même plutôt antipathique, et on se doutait que ça allait être compliqué avec lui tout le long, là, vraiment, les deux personnages, pour le coup, nous sont présentés sous de beaux jours, on va dire. Et c'est ce qui fait le fait qu'on sache pas trop où ça va, et qu'en même temps, bah, on se fait avoir au final par le film, quoi.
Et ça raconte énormément de choses, parce qu'alors on recroise des personnages, il y a les personnages, surtout une, qu'on avait vue dans Beloved, qu'on pensait qu'elle était secondaire, en fait pas tant que ça, parce qu'on la recroise dans ce film-là. Et il y a aussi un passage, c'est qu'il y a des passages floutés, alors c'était déjà le cas dans les précédents, parce qu'on floutait les corps, mais là le floutage a un sens encore plus grand, je trouve, parce qu'il y a des... Là, à un moment, il est sujet de porno, il est sujet de prostitution, et là on floue. C'est-à-dire qu'on floue l'écran du porno, bon ça, ok. Mais à un moment, il y a une scène avec des prostituées, ben on floute le corps et on floute le visage aussi, ce qui donne un côté impersonnel et déshumanisé, et qui explique aussi, du coup, un rapport d'un personnage dans sa construction, et, ou sa déconstruction. Et je trouve que, du coup, là, ce qui était censé ne pas nous détourner du regard, en fait, prend un sens encore nouveau ici. Donc je trouve que c'est très malin à tous les plans, là encore. Et pourtant, le flou, si vous avez vu les précédents, en fait, vous voyez ce qu'il y a derrière le flou.
Voilà. Non, c'est vrai, c'est très... Mais voilà, ça continue. C'est vraiment une création d'ambiance dans celui-là qui est juste parfaite, en fait. Vraiment, il arrive à nous enfermer dans ce microcosme, et on s'y perd et on prend une petite baffe, mine de rien. Et franchement, ça m'a fait du bien, mais c'est pas vraiment le terme, mais quand je suis sorti du film, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, là, vraiment, son propos est tenu de bout en bout, et ça fait mal. Et je pense que c'est un film qu'il faut aller voir, qu'il a pas une grosse distribution, je sais même pas s'il est encore en salle actuellement. Il était très très peu diffusé déjà, rien qu'à sa sortie, par rapport aux deux autres. Donc, ce qui est un peu dommage au final, parce que c'est peut-être celui que les gens auraient peut-être pu aller voir le plus facilement.
Oui, enfin, après il y a eu les deux autres qui sont sortis d'un coup, ensemble, parce que c'est vrai que pour les apprécier c'est peut-être mieux. Moi je conseille de voir les trois, mais si vous avez la possibilité d'en voir qu'un, privilégiez celui-là. Voilà. Après non, les trois se complètent, hein. Les trois se complètent bien. Allez, fin de la semaine, les films en bref. Voilà, alors j'ai donné de ma personne. On est dans la continuité de Mon grand-père et moi, mais côté français, hein, les belles comédies, avec rattrapage de la comédie familiale Bouchou. Alors j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, film d'Adrien Piquet-Gauthier, bon, très bien. En gros, on pourrait prendre la critique qu'on a faite de Mon grand-père et moi et la copier-coller, limite, c'est-à-dire qu'on a un beau casting. Donc autour de Stéphie Selma et Lannick Gautry, on a Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarier, Pascal Nzonzi et même Armel qui passe pour un petit rôle. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle fout là, mais elle pop, voilà. Et c'est une espèce de téléfilm, on dirait un programme court entre pubs, hein, vous savez, les scènes de ménage ou ce genre de truc, mais qui a été étalé sur une heure et demie, avec une succession de sketchs et de situations... Pas toujours très drôle, mais bon, pourquoi pas. Et ça s'enchaîne, c'est en gros, c'est un couple installé à Paris qui vient d'avoir un gamin, un petit bout de chou. Et les grands-parents se battent pour savoir où les parents vont aménager, est-ce qu'ils vont rester à Paris ou est-ce qu'ils vont s'installer à la campagne, au Pays Basque. Voilà, voilà, voilà. On a des personnages caricaturaux, ok, très bien. On a des vannes qui pourraient marcher, hein. Il y en a, hein, sur l'échelle de Chiron, on n'est pas trop mal. Sur l'échelle de Brutus contre César, par exemple. Voilà, on est au-dessus. C'est pas mal. Le problème, c'est que c'est très très mal amené. Très souvent, c'est par exemple, Carole Bouquet qui fait une blague, qui balance une pique à son ex-mari joué par Gérard Darmon. Donc en gros, Gérard Darmon dit, ah, regardez, il me ressemble, il a mes yeux. Je fais, non, ici, il a que toi, ça, et il a pas de bol. Puis elle soulève le drap. Ah, il a ça aussi. Bon, tout le monde a compris qu'il parlait de sa bite. Mais il faut que Pascal Nzonzi arrive et fasse, ah, il parle de son kiki. Oh, 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 c'est drôle. Et là, du coup, t'es dans le malaise, quoi. C'est-à-dire que s'ils en sont à t'expliquer les vannes, c'est compliqué. Et pareil, il y a Carole Bouquet qui débarque à l'hosto alors que le bébé va naître. Du coup, elle a plein de paquets de sacs de shopping, tu sais, elle en a plein partout. Elle dit « Ah, c'est pour le bébé !» Et du coup, ils nous ont dit il met la main dans un des sacs au hasard, il soulève, c'est un escarpin adulte, et du coup, on a compris, pas besoin d'insister, mais, je suis sûr que ça va lui plaire. Mais pourquoi tu la rajoutes cette phrase en fait ? Et en fait, c'est que des lourdeurs, c'est que du mal amené, c'est du mal réglé. Et bon, c'est triste, c'est très triste.
C'était assez triste de se dire qu'on se demandait, mais pourtant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Pascal Zonzi dans le premier de la classe ? Bah, c'était parce qu'après il y avait bout de chou et que du coup on va peut-être relativiser l'autre. C'est triste.
Voilà, voilà. Donc tu sens que ça a été calibré pour passer entre 4 pauses pub sur la 6 ou W9 ou je ne sais quoi. Donc voilà, bon, bref. On passe. Par contre, il y avait une autre comédie, encore du familial, et Parents d'élèves, par Noémie Seglio, qu'on connaît plus parce qu'elle elle avait écrit Connasse. Ah ! Planqueur aussi. Oh ! Hein, c'était pas aussi glorieux. Avec Vincent De Dienne et Camélia Jordana. Donc Vincent De Dienne qui joue le babysitter d'un petit garçon. Du petit Bart. Il l'amène à l'école et tout parce que sa mère est une mère célibataire et donc elle ne peut pas s'en occuper, elle bosse et tout. Et pour le conseil de classe, comme elle ne peut pas y aller, elle paye le babysitter Vincent De Dienne pour aller en conseil de classe. Bon, il accepte déjà pour un. Et puis le petit le fait passer pour son père. Et comme Vincent De Dienne craque le béguin pour la maîtresse qui est Camélia Jordana, du coup il va jouer le jeu, il va se faire passer pour le père et donc il va se faire passer pour un parent d'élève et il va se faire embarquer malgré lui dans ce clan, cette tribu étrange que sont les parents d'élèves. Voilà, voilà, voilà. Donc une bonne comédie française comme on les connaît, c'est-à-dire un groupe social, les parents d'élèves, un mensonge pour intégrer la communauté, une trahison parce qu'il est amoureux, un intérêt amoureux, mais trahison de l'intérêt amoureux, puis ensuite non, finalement ça va, puis on dit la vérité, puis finalement tout le monde est heureux à la fin. Bon, très très classique. C'est mignon, c'est pas désopilant, mais c'est plutôt mignon, il y a des réflexions intéressantes, il y a un cas qu'on n'aborde pas souvent, c'est-à-dire que l'enfant, pourquoi est-ce qu'il demande à Vincent De Dienne d'être son papa ? C'est parce qu'il n'en a pas. Son papa est un spermatozoïde d'une banque de sperme, voilà. Donc c'est intéressant, bon, c'est assez sensible. C'est pas le film de l'année non plus, voilà. Et pour ceux qui avaient peur que ça s'en prenne aux profs, non, absolument pas, ça s'en prend aux parents d'élèves qui sont des gros tarés et qui se projettent sur leurs gamins, voilà. On embrasse jus de melon. Bien, enfin bref, si vous avez survécu à mon grand-père et moi, vous pouvez aller voir ces deux-là. Mais bon, je pense qu'il y a mieux à voir au Cinoche. Malgré tout, est-ce qu'il y a des recos ? Thierry n'a pas de recos. Alors, effet étrange, Thierry n'a pas de recos.
Non, mais on va passer à autre chose, je réfléchis par rapport au film qu'on a vu.
Éléonore, est-ce que tu aurais une reco ?
Ouais, je vais changer un petit peu de registre et je vais parler du coup d'un article de blog. Il n'y a pas très longtemps, la blogueuse Bon Chic Bonjour a sorti un article sur la psychophobie dans le cinéma. Et c'est un sujet dont on ne traite assez peu. En général, on parle des problèmes de sexisme, de racisme, de représentation des femmes et des minorités, mais assez peu des représentations des maladies mentales. Et donc elle a décidé de s'y atteler, et de manière assez intéressante. Et notamment, elle termine par un entretien avec Dan de Lyon, qui tient le blog Le Temps des Cerises, qui, donc cette personne, est schizophrène et explique du coup assez bien son expérience et en quoi c'est important de représenter de manière assez authentique les maladies mentales à l'écran pour éviter d'avoir des problèmes juste des mauvaises représentations et du coup d'être considéré comme dangereux, alors que très clairement, c'est plus souvent les personnes qui sont malades, qui ont des maladies mentales, qui sont stigmatisées et non pas l'inverse. Donc c'est assez intéressant, donc je vous conseille d'aller voir, je pense qu'on mettra le lien quelque part.
Dans la description.
Et outre cela, elle fait toujours des dossiers passionnants et des entretiens avec des créatrices qui parlent de cinéma sur le web, vraiment très intéressant. Donc pour ceux qui se plaignent à chaque fois que c'est toujours les mêmes qu'on voit sur Twitter, YouTube et compagnie, c'est pas vrai. Donc vous pouvez aller voir sur le blog et vous aurez une liste de gens passionnants à suivre.
Okay. Ellie, une reco ou pas? Allez, Ellie a toujours une reco, il a toujours une dans le sac.
Toujours un tour dans le sac, exactement. Non, et là, je vais parler d'un film que j'ai vu avec Éléonore et Thierry et Marwan, qui n'est pas là avec nous, mais le week-end dernier, qui s'appelle Possession, d'Andrew Zulawski. un film donc réalisé par un monsieur polonais avec Isabelle Adjani et Sam Neill, et qui raconte grosso modo la séparation d'un couple sans vraiment de raison, mais c'est vraiment le déchirement pur d'une relation amoureuse au cœur de Berlin-Est en fait. Et c'est un film qui nous a tous pas mal retourné quand on est sorti de la salle dimanche. Et ce qui est très fort en fait, c'est tout le rapport en fait à la folie en fait qui se dégage du film. La mise en scène est complètement habitée, la caméra ne fait que voler partout, elle entoure les personnages, on a beaucoup de plans séquences qui s'enchaînent, et on a surtout le personnage d'Isabelle Adjani qui s'effondre psychologiquement peu à peu en fait à mesure que le film avance, jusqu'à nous livrer des scènes mais qui mettent très très mal. Dans le métro, qui est un des trucs les plus violents que j'ai vu au cinéma depuis très longtemps, et qui marque sûrement peut-être une des interprétations féminines les plus belles et puissantes que j'ai vues de toute ma vie, je pense. C'est un film donc intéressant d'un réalisateur qui n'est pas très très connu en France, hein, même si donc Possession est un peu son hit. Il a fait L'importance est d'aimer aussi avec Romy Schneider, mais là c'est un peu son gros film. C'est un film donc qui parle d'amour, mais c'est aussi un film d'horreur purement, car ce qui se passe c'est terrifiant à voir. C'est vraiment une haine qui va se développer sans aucune raison et qui va détruire la vie de deux individus, alors qu'il y a un enfant en plus en jeu dans le couple. Et il y a tout un contexte aussi donc avec la ville de Berlin qui, par sa séparation, évoque le couple, évoque aussi bien sûr le communisme et l'oppression d'un système. Enfin, c'est un film qui est d'une densité mais énorme, et qui pourtant ne dure que 2 heures et passe tout seul en fait. C'est un rouleau compresseur. Et alors il va ressortir en fin d'année normalement, à la fois au cinéma et en DVD Blu-ray par Le Chat qui Fume. Donc ce sera l'occasion pour tout le monde de redécouvrir ou le découvrir. Hein. Et pour ceux qui peuvent le voir actuellement, pour la période du mois d'octobre qui est un peu marquée par l'horreur, ça peut être pas mal et ça peut en faire chocoter plus d'un à mon avis. Hein. Donc voilà.
Merci Ellie. Bon ben moi je suis allé voir Fantomas sur grand écran, voilà. Je l'avais vu 10 fois à la télé, c'est pas le problème, mais voilà, là je l'ai vu sur grand écran, ça m'a fait plaisir. Voilà, la Cinémathèque. Je parlais du cycle Gérard Houry, Expo de Funès, donc film de Funès aussi. Donc ça, c'était pas Gérard Houry, c'est encore un autre réel, mais voilà, il y a plein de films de Funès à voir. On les connaît par cœur sur petit écran, je suis d'accord, mais sur grand, c'est l'occasion. Voilà.
Ça change pas grand-chose, mais c'est bien quand même.
Fantomas avec la poursuite à la fin qui est dantesque, parce que ça, elle dure, elle est super longue, quoi. Il y a des poursuites en moto, en voiture, en hélico, en train, en bateau, enfin voilà, c'est un grand spectacle. Autant en profiter. Bon, par contre, c'est vrai que la représentation de la femme, c'est encore autre chose, mais ça, on va pas. Voilà, c'est bon ? Dis donc, on a été court sur les recos, dis donc. C'est très bien. Moi, ça me fait moins de montage, c'est parfait. C'était Certains les Machos. Merci chers amis, merci Léonore.
Mais merci à toi.
Merci Ellie.
Merci à toi Thomas.
Et merci Thierry.
Mais merci.
Et merci à vous chers amis de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et les suivants sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour recevoir les épisodes dès leur sortie. On se retrouve sur les réseaux sociaux en attendant, Twitter, Facebook, Instagram, CLAC Podcast, CLAAC Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
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 À Thierry, on m'a fait remarquer la semaine dernière que tu ressembles beaucoup à François Damiens sur les affiches de Mon Cousin.
Oui, merci.
Voilà.
Alors j'aime pas François Damiens dans Mon Cousin, je le trouve pas très bon, mais j'aime bien François Damiens en général, je suis content, ça change un peu.
Non mais ça vous fait un point commun du coup, on t'aime bien mais on te trouve pas très bon. Et
Je sais, ça me fait très plaisir, enfin quelque chose qui me ressemble. Cul.